Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, participez à la consultation sur l'eau. Les habitants du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis sur les enjeux et les défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l'eau et la stratégie de gestion des risques d'inondation du bassin. Éco-Breton vous propose une série de podcasts pour mieux connaître les enjeux liés à l'eau en Bretagne. Aujourd'hui, on retrouve Pauline Penaubert de l'association Eau et Rivières de Bretagne.
Moi, je suis sur le poste de chargée de mission politique de l'eau. Donc moi, je travaille notamment sur toutes les questions des grands enjeux de l'eau en Bretagne.
Quel est le rôle exactement de l'association Eau et Rivières de Bretagne? Quelles sont ses grandes actions?
Donc on a 3 grandes orientations. Une orientation d'éducation populaire, où on fait des sensibilisations aux questions environnementales, notamment auprès des scolaires. En 2018, c'est plus de 11 000 journées d'éducation à l'environnement auprès de 13 000 enfants. C'est aussi de l'éducation populaire, mais auprès des adultes. Hein. Donc on fait des formations, des conférences, des colloques, donc qui sont ouverts aux citoyens, mais aussi aux nos adhérents, de manière où ils peuvent étudier les sujets de manière plus approfondie, via des journées techniques. On a un travail de veille de sentinelle, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qui se passe. On peut être un rôle d'alerte face aux politiques publiques, face aux dégradations d'environnement. Donc on va aller constater les infractions, alerter les services de police. On peut aller porter des recours pour des dégradations importantes, comme par exemple la pollution de la Seiche en 2018, suite à un déversement de lactose pur dans la cour d'eau, ou une fosse alisée qui explose et qui détruit un cours d'eau sur 8 km, ce genre de choses.
Justement, quelle est la situation concernant la qualité de l'eau en Bretagne à l'heure actuelle?
Alors, c'est une situation assez hétérogène. On était une région qui est partie de très loin, c'est-à-dire que dans les années 80, la situation des cours d'eau s'est beaucoup dégradée en Bretagne de manière très abrupte. Quasiment du jour au lendemain, on est passé sur des cours d'eau qui étaient très bon état, des cours d'eau très dégradés. Et depuis 15 ans, on voit une petite amélioration sur certains sujets et dans certains secteurs. Donc par exemple, sur la question des nitrates, on a une baisse de la concentration des nitrates dans certains cours d'eau et dans certains secteurs, mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, notamment sur la Vilaine, aujourd'hui, les cours d'eau de la Vilaine continuent d'être plutôt en mauvais état et continuent à se dégrader. D'autres sujets qui sont encore aujourd'hui très problématiques, par exemple, c'est la question des pesticides. On a des cocktails de pesticides qui sont présentes dans quasiment tous les cours d'eau. Aujourd'hui, plus de 98% des cours d'eau ont des pesticides qui sont mesurés régulièrement.
Quel est le pesticide qu'on retrouve le plus dans les cours d'eau bretons?
Alors, ça va être un molécule de dégradation, c'est-à-dire un pesticide qui s'est dégradé dans le temps un second pesticide. Ça va être le dégradé du glyphosate, qui s'appelle l'AMPA, qu'on retrouve dans pratiquement 80% des cours d'eau bretons.
Est-ce qu'avec l'interdiction de vente aux particuliers depuis le début de l'année, est-ce que vous pensez que ça va changer vraiment les choses, ou il faudra vraiment de longues années avant que ça s'améliore?
Alors ça, c'est une question assez complexe. Je pense qu'on pourra avoir les résultats, s'il y a des résultats observés d'ici un an ou deux ans. On pense néanmoins que c'est quand même quelque chose qui était important à mettre en œuvre, notamment face à la dangerosité de ces produits et le manque de précautions qui étaient faites par les utilisateurs de ces produits dangereux pour la santé. Donc pour nous, c'était de toute façon une avancée qui était nécessaire et qui est une avancée importante.
Au niveau des pratiques agricoles, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi?
Alors depuis 30 ans, oui, les choses ont quand même changé. Hein. On a quand même eu des meilleures pratiques environnementales aujourd'hui qu'il y a 30 ans, notamment sur la gestion des effluents. On n'est pas sur les mêmes choses qu'il y a 30 ans. Mais comme on est sur une région d'élevage intensif, hein, il faut rappeler qu'on a sur 6% de la surface de la France, on a 57% du porc, 44% de la volaille et 24% des élevages bovins, de vaches laitières. Donc tout ça fait que même si on a des améliorations de pratiques réelles, il y a eu des réelles améliorations de la part des agriculteurs dans la gestion des effluents et dans les conditions d'élevage des animaux, eh ben, la question reste problématique parce que c'est vraiment la question la source numéro 1 de pollution en Bretagne, malgré tout.
Et justement, concernant le nitrate, ça a évolué comment? Est-ce que c'est encore vraiment un gros problème ou on est plutôt passé sur la problématique des pesticides?
Alors, ça reste quelque chose d'important. C'est comme le nitrate, ça reste une source importante de pollution des eaux en Bretagne et notamment, ça reste toujours une problématique importante face aux algues vertes. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours des plages qui sont contaminées par des proliférations d'algues vertes. Et ça sera toujours le cas tant qu'on ne sera pas descendu à des concentrations très basses, bien inférieures aux 50 mg par litre, qui sont là, pour l'instant la norme nationale. C'est bien quand on passera en dessous de 20, 25 ou même 20 mg par litre dans nos cours d'eau breton qu'on pourra voir ces concentrations d'algues vertes diminuer.
Parce qu'à l'heure actuelle, on n'y est pas en fait.
On n'y est surtout pas et on n'y est pas dans certains. En fait, il y a des endroits où ça diminue, mais il y en a d'autres où ça diminue toujours pas. Même dans des endroits où on trouve des algues vertes, on a encore du mal à faire diminuer les concentrations en nitrate dans le cours d'eau.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour aller plus loin ?
C'est pas qu'est-ce qu'il faudrait faire une seule solution, c'est tout un changement de pratique. Et ça passe par justement des outils comme le SDAGE qui permettent de mettre des objectifs concrets et qui après permettent aussi de mettre en place des aides qui vont aider les agriculteurs à passer au changement de pratique. Parce que vu le contexte agricole breton, ça ne se passera pas comme ça. Si on ne fait pas un coup de main auprès des agriculteurs, on ne pourra pas changer ces pratiques-là. Mais c'est toute une solution de pratique. Hein. C'est passer à du polyculture élevage, c'est des rotations longues, des épandages inférieurs. Il y a plein de choses à mettre en œuvre. Il n'y a pas une solution, et notamment pas, on ne peut pas donner une solution à l'échelle d'un territoire aussi grand que la Bretagne. C'est bien par territoire et à l'échelle de bassin versant qu'on doit réfléchir. C'est l'échelle la plus cohérente pour pouvoir anticiper pouvoir étudier les problématiques et anticiper et penser aux solutions.
Et le citoyen, comment est-ce qu'il peut agir là-dedans, peut-être avec toutes ces solutions ?
Alors aujourd'hui, le citoyen là, agit déjà beaucoup, hein, parce que au porte-monnaie, c'est quand même le citoyen qui paye la part majoritaire de la redevance sur les pollutions des eaux. Donc aujourd'hui, le citoyen est déjà très, on va dire, actif malgré lui. Parce qu'aujourd'hui, on n'applique pas le principe de pollueur-payeur. Hein. C'est bien le citoyen qui paye les pollutions faites pas forcément par lui. Ce qui peut se faire au niveau du citoyen et notamment des collectivités. C'est par exemple, il va falloir qu'on réfléchisse sur l'aménagement du territoire. Est-ce que tout le monde doit aller vivre sur le littoral ? Est-ce que tout le monde doit aller vivre dans les grandes collectivités ? Parce que ça fait plein de problématiques de gestion de la ressource en eau qui sont liées au fait qu'on concentre toutes les populations sur des zones très, très restreintes du territoire breton. Et en tant que citoyen, on peut bien sûr faire des choses à sa petite échelle, donc c'est-à-dire recycler, économiser l'eau, mais c'est aussi une gestion globale du citoyen dans sa collectivité, dans son territoire, sur comment on anticipe les années à venir pour justement partager la ressource en eau et économiser la ressource en eau.
Quels seront les effets du réchauffement climatique ? Quels sont même les effets du réchauffement climatique sur la qualité en eau ? Est-ce qu'on a déjà une idée ? Est-ce qu'on voit déjà des choses ?
C'est difficile hein, de répondre à cette question-là parce que de toute façon, il ne sera pas là du jour au lendemain le changement climatique et on ne verra pas comme ça, le climat ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des documents très sérieux qui ont été mis en œuvre, hein, notamment je pense au plan d'adaptation au changement climatique qui a été fait à l'échelle de la Loire-Bretagne et qui donne des estimations sur quels sont les risques par territoire à l'échelle des grands bassins versants. Et sur la Bretagne, on voit qu'on est très sensible aux questions de la gestion quantitative de la ressource et aux sécheresses de fin d'été. C'est-à-dire qu'à la fin d'été, nos sols, on n'aura plus beaucoup d'eau. Donc c'est-à-dire que ça va être compliqué pour les situations, notamment je pense aux situations agricoles. Et sur la question de la ressource, de la gestion quantitative, ça veut dire comment on va partager cette ressource. Donc on sait qu'en Bretagne, on va être face à ça. Et un endroit où on le voit déjà aujourd'hui, en fait, il y a un endroit où on peut déjà imaginer les effets du changement climatique, c'est les îles. Et en Bretagne, on a beaucoup d'îles. Donc en fait, en Bretagne, on voit déjà comment on va être obligé de gérer la ressource en eau quand on regarde comment ils gèrent la ressource en eau sur les îles. Eux, ils ont déjà beaucoup de problèmes d'accès à l'eau et ça conditionne aujourd'hui, l'accès à l'eau conditionne leur accès au tourisme. Donc ça a un impact sur l'économie et ça leur demande de travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Je vous parlais tout à l'heure de qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'échelle des collectivités et des citoyens. Donc par exemple, un sujet qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à urbaniser sans réfléchir sur des secteurs où aujourd'hui on a des problèmes de stations d'épuration qui sont défectueuses ou des milieux qui sont déjà pollués. C'est pas possible. Aujourd'hui, il va falloir accepter le fait qu'on ne va plus pouvoir continuer à étendre l'urbanisation sans réfléchir, alors qu'on est déjà dans des situations problématiques qui ont un impact sur le milieu de toute façon aussi sur le milieu, mais aussi sur la santé humaine. Hein. Je pense notamment aux pollutions bactériologiques qui peuvent avoir des impacts sur la santé humaine. Donc on va devoir durcir la réglementation sur les questions d'urbanisation. Je pense notamment qu'il va falloir qu'on s'empare aussi de la question de l'artificialisation des sols avec l'objectif de zéro artificialisation nette qui doit être aujourd'hui pris en compte par les collectivités. Pour finir, je voudrais surtout insister sur le fait qu'il est très important, qu'il est l'importance de participer à la consultation sur l'eau, sur les questions importantes d'usage, parce que ce document-là va avoir des répercussions importantes sur les politiques qu'on mènera au niveau local sur les questions de l'eau dans les 10 prochaines années à venir. Donc vraiment, il faut y participer, il faut que chaque citoyen participe à cette consultation usage.
Un podcast réalisé avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour accéder à la consultation, rendez-vous sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou adressez une consultation écrite individuelle ou collective à sdage@eau-loire-bretagne.fr.